Bonjour à tous. Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui l'écrivaine Catherine Mavrikakis, qui s'est distinguée dès sa première publication par la force et la sensibilité de son œuvre. Son dernier roman, Le ciel de Bay City, a été sélectionné au Grand Prix du livre de Montréal 2008, et sa dernière pièce, Omaha Beach, au prix du gouverneur général 2008. En compagnie d'Aline Apostolka, animatrice des midis littéraires de la Grande Bibliothèque, vous découvrirez ses sources d'inspiration, ses rituels d'écriture et les aspects de sa vie qui ont fait naître le désir de création. La rencontre sera suivie d'une période de questions. Avant de céder la parole à Mme Apostolka, je vous convie au prochain midi littéraire le 9 décembre en compagnie de l'écrivain Stéphane Bourguignon. Veuillez noter qu'il est interdit de prendre de photos et d'enregistrer l'entretien que vous pourrez d'ailleurs réentendre sur le portail Internet de BANQ. Nous avons un photographe officiel dans la salle. Merci aussi d'éteindre vos téléphones cellulaires et je vous souhaite à tous une très belle rencontre.
Bonjour. Bonjour et bon 11 novembre. Il paraît que c'est un jour férié. Je pensais que c'était juste en France, mais non, finalement. Je ne sais pas pourquoi ça serait juste en France, d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité. Je disais justement que ce thème de l'armistice et de la guerre, la première, la deuxième guerre, sont un peu indiqués pour parler avec notre invité d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de recevoir une écrivaine rare, qui vient rarement dans ce genre de manifestation. Elle est considérée, elle est certainement sans compromis ni parti pris, si ce n'est son fort parti pris pour la littérature comme instrument de conscience, de lucidité et d'analyse de l'inconscient collectif et individuel et des échos entre les deux. Romancière, essayiste, elle vient de s'essayer justement avec succès au théâtre, mais elle remplit aussi depuis longtemps mission d'enseignement et de transmission comme professeure titulaire au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal depuis juin 2003. Et avant cela, elle était professeure à Concordia après un doctorat en littérature comparée sur le thème de la langue originelle et des traductions de celle-ci. Elle se définit comme une écrivaine de l'enfance, mais que cela veut-il dire? La mort, par contamination épidémique donc inévitable, hante ses pages depuis le début. Mais de quelle épidémie s'agit-il? La mémoire peut-être, celle de l'enfance, inaltérable, irréductible, impardonnable, et l'histoire, avec un grand H, celle des peuples et des individus, transmission par-delà les ruptures, des deuils, des exils, des transmissions tronquées ou restituées. La mémoire, l'espoir malgré le désespoir et l'absence de pardon, par-delà la santé mentale et sociale, par-delà les idées reçues, les consensus convenus, les souffrances non dites et celles assumées, en particulier dans le corps et le cœur des femmes. Une écrivaine de l'enfance alors, peut-être, mais pas au sens où l'enfance est l'enfance de l'art, mais l'enfance non vierge de l'histoire des autres, au plan familial, autant qu'intime ou collectif. Paradoxalement, elle est aussi une écrivaine de l'espoir en l'enfant, l'espoir du prochain, celui qui vient, nettoyer et réparer le passé et ses lourdeurs pour celui qui vient. Au fond, pour toutes ces raisons, elle réfléchit le Québec parce que précisément elle le remet en question, en le replaçant dans un contexte nord-américain. L'appartenance nord-américaine, voici sa revendication, son contexte, son appartenance choisie, qui fait l'objet d'un nouveau cycle littéraire actuel, un cycle de maturité salué partout, en ce moment, par la presse et le public. Et donc, depuis 1999, 4 romans, un récit, une pièce de théâtre, 5 essais, des recherches en tant que chercheur universitaire. Elle a remporté le prix Victor Barbeau de l'essai de l'Académie des lettres du Québec ainsi que le prix Spirale Eva Legrand en 2006. Et Suspense, elle est actuellement finaliste du Grand Prix du Livre de Montréal 2008 pour son dernier roman et finaliste du prix du Gouverneur Général 2008 pour sa pièce de théâtre. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'accueillir Catherine Mavrikakis. Bonjour et merci d'être là parce que, comme je disais, vous venez rarement dans ce genre de manifestation. Alors, on va oublier tout le monde et avoir une conversation de salon. Et pourtant, ils sont nombreux et attentifs. Alors, ceux qui sont nos habitués savent que la première question est à la fois très personnelle, mais c'est la question. Nom, prénom, date et lieu de naissance.
Alors, mon nom, c'est Mavrikakis. Mon prénom, c'est Catherine Marie. Et ma date de naissance, c'est ça 7 janvier 1961. Et le lieu de naissance, on dit aussi Chicago, aux États-Unis.
Ça, c'est une ville célèbre en ce moment.
Oui. J'en suis d'ailleurs assez contente.
Mais oui, ben certainement, certainement. Catherine Mavrikakis, c'est ça, c'est ce contexte américain, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, vos origines et, je dirais, le contexte de votre enfance. Combien de temps restez-vous à Chicago et qui étaient vos parents?
Alors, je reste très peu de temps à Chicago parce que ma mère est allée à Chicago parce qu'elle n'était pas divorcée de son premier mari. Elle avait une relation avec mon père et elle n'avait pas divorcé. Elle a décidé d'aller vivre chez ses sœurs qui étaient aux États-Unis. Ses sœurs étaient allées aux États-Unis parce que la sœur aînée de ma mère avait rencontré un GI américain sur les plages de Normandie sous les bombardements et elle avait décidé d'aller vivre aux États-Unis en 1946. Elle s'y trouvait très bien, très contente de partir de la France, de quitter sa mère. Hein, ça, c'est ma tante, la sœur de ma mère. Et elle dit à ses sœurs, venez donc vivre en Amérique avec moi. C'est mieux que l'Europe. Mais toute la famille de ma mère était très traumatisée par les guerres, par la première guerre et la seconde qu'elles ont vécue. Et elles étaient très contentes de quitter l'Europe. Mais ma mère ne se plaît pas. Elle va aux États-Unis, elle ne s'y plaît pas. Elle décide d'aller rejoindre un cousin à Montréal qui était un peu un aventurier. Puis elle préfère vraiment rester dans un contexte francophone. Ma mère n'aimait pas du tout l'anglais. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle rencontre mon père. Et au moment de ma naissance, elle décide d'aller passer quelque temps aux États-Unis chez ses sœurs. À ce moment-là, moi, je reste là même pas un an. Je reviens au Québec. Et puis, on passe tous les étés de l'enfance chez les sœurs de ma mère. Donc, je retourne à Chicago dans un premier temps, puis chez l'autre sœur de ma mère qui, elle, est allée s'installer à Bay City, au Michigan.
C'est ça, il y a des échos certains avec votre dernier roman, mais on n'est pas rendu parce que c'est une entrevue chronologique comme on n'en fait plus jamais pour voir en fait le parcours qui est le vôtre sur le plan personnel et bien sûr sur le plan littéraire. Mais ce que je comprends, c'est un contexte français avec un contexte américain et québécois, un père qui vient d'ailleurs avec un nom pareil.
Alors, mon père est né en Grèce. Il part de Grèce quand il a 5 ans, en 1939, et il va vivre en Algérie. Et à ce moment-là, il va s'intégrer à la communauté française pieds-noirs d'Algérie.
Oui.
Donc, mon père a une culture pieds-noirs, comme on dit, une culture de colons en Afrique du Nord, même si lui ne s'identifiait pas tellement aux colons, parce que dans la hiérarchie des colons, il était au bas de l'échelle parce qu'il était grec et plus que métèque, mais il était quand même du côté... Il a été scolarisé en français.
Toujours le colon de quelqu'un.
Oui, exactement. C'est ça. Tout à fait.
Et donc, dans votre enfance, quelle importance ça a dans votre petite enfance, je veux dire, dans la constitution de votre identité même? Mais quelle importance ça a, toute cette mosaïque? Parfois, on sait, au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est une richesse, mais est-ce que dès l'origine, on en a conscience?
Ah, pas du tout. C'est-à-dire que moi, je vis à Montréal, je vis à Ville-d'Anjou en 1960, dans les années 60. On habite à Ville-d'Anjou, dans l'est de Montréal. Et bon, ma mère est toujours en train de pleurer le fait qu'elle n'est plus à Paris. Hein, même si elle est contente d'être là, elle se dit « qu'est-ce que je fais là avec cet homme, avec ses enfants ? Je suis prise un peu là-dedans. » Mon père, lui, voyage beaucoup, fait des affaires et jamais là. Et moi, j'ai l'impression de ne pas savoir du tout où je suis. J'ai cette impression que je voudrais bien être de Ville-d'Anjou, je voudrais bien être d'ici, mais en même temps, je vois bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme les autres. Les origines de mes parents, une certaine façon de vivre. Je me sens à la fois, je me sens nulle part. Enfant, je me sentais vraiment de nulle part, avec une très, très forte envie d'avoir des racines, mais sans savoir comment me les faire. Donc, pas du tout. Mes parents tenaient beaucoup à ce que j'ai quelque chose de leur passé. Moi, je tenais pas du tout à avoir quelque chose de leur passé. Je voulais accomplir le rêve qu'ils accomplissaient pas, c'est-à-dire devenir une Nord-Américaine, devenir québécoise par la suite. C'était ça mon rêve, c'était de trouver un lieu.
Mais alors justement, dans cette petite enfance à Ville-d'Anjou, c'est quoi Ville-d'Anjou dans les années 60?
Oh ben, Ville-d'Anjou, dans les années 60, c'est la place Versailles. C'est plus tard, en 68, 67-68, c'est les Galeries d'Anjou. J'adorais les Galeries d'Anjou. Hein, c'était un lieu où je gérais. C'était le dépanneur au coin de la rue. C'était le boulevard du Roi René sur lequel j'habite. C'était un lieu. C'était un lieu que mes parents, avec lesquels mes parents avaient du mal, et moi, je me retrouvais là-dedans. Sauf que mes parents me disaient, t'as pas le droit d'aimer ça, c'est pas notre culture, c'est pas chez nous. En même temps qu'ils étaient très attirés par ça, hein, parce que c'est le dilemme de beaucoup d'immigrants, c'est en même temps adorer leur terre d'accueil puis pas être capable de renoncer à leur passé. Mais moi, j'essayais de...
C'est-à-dire qu'ils vous donnent quelque chose dont ils vous interdisent l'attachement.
Oui, d'une certaine façon, en disant... Un jour, si mes parents étaient dans cette folie-là, ils disaient toujours, un jour, on rentrera chez nous. Et moi, je leur disais, c'est où chez vous? Il n'y avait même pas le même lieu. Ma mère n'aurait jamais été en Algérie de sa vie. Mon père, il ne serait pas allé en Normandie non plus. Donc, je me demandais bien. Enfin, c'était la terre de leur rencontre, c'était ici quand même. Mais ils avaient cette idée qu'ils ne resteraient pas. Ils sont restés. Hein. Ma mère a 83 ans, elle est là. Donc,
C'est ça, mais est-ce que la langue était un point d'ancrage, cette langue française?
Ah oui, ben c'était pour ça que mes parents étaient là, en fait. Autrement, ils seraient peut-être allés aux États-Unis ou au Canada anglais, mais ils étaient là à cause du français, c'est-à-dire qu'ils tenaient au français, surtout ma mère, mais même mon père. C'était quelque chose auquel on tenait. En même temps, ils avaient, comme beaucoup d'immigrants dans ces années-là, une méfiance face au français qu'on parlait au Québec. Ils se demandaient, est-ce que c'est le bon français? Mais bon, en même temps... C'est pas ça qui m'a dérangée. Là où vous avez raison, c'est que je pense que le français était le lien entre la maison et l'extérieur. Ça, c'était bien d'avoir la même langue. Ça, c'était quelque chose qui permettait une continuité. Autrement, j'avais l'impression de vivre de façon schizophrénique.
Est-ce que votre père parlait le grec avec vous? Est-ce qu'il vous a transmis ces racines-là ou pas?
Pas du tout. Mon père avait arrêté de parler le grec à la mort de sa mère, quand il avait 15 ans. Donc, il n'a pas du tout transmis ça. Des fois, il parlait un petit peu avec mon grand-père, qui était à Montréal, qui avait lui aussi immigré, avec sa sœur, mais il n'a jamais voulu le transmettre. Il le parlait un petit peu de façon très ponctuelle en famille, mais il ne le parlait pas.
Est-ce que pour vous, il y a quelque chose d'une résurgence dont on ne connaît jamais vraiment la teneur, mais d'une culture, d'une appartenance à la fois méditerranéenne, et puis ensuite normande, et puis ensuite américaine, ou est-ce que pour vous, c'est tout ça l'Amérique, justement?
Pour moi, l'Amérique, là, c'était bien, c'était le lieu où je pouvais mélanger justement toutes ces identités. C'est-à-dire que quand on allait en France, il n'y avait pas de mélange possible.
Oui.
Je ne suis jamais allée en Grèce de ma vie, donc je ne sais pas. Mais j'avais l'impression que dans cette terre d'immigration, comme mes parents le voyaient en 57 quand ils sont venus, on pouvait être comme ça, hybride, on pouvait avoir plusieurs appartenances et que ça ne faisait pas problème ici. Donc, il y avait vraiment, pour moi, cette identité-là, elle était américaine ou nord-américaine, et plus tard, je vous ai dit, québécoise, mais au début, mes parents n'utilisaient jamais le mot québécois. D'ailleurs, on l'utilisait peu au Québec, on utilisait canadien-français,
oui.
Mais mes parents disaient plutôt l'Amérique, c'était oui. Le rêve américain.
C'était le rêve, oui. Et l'anglais, donc, pendant les grandes vacances?
L'anglais pendant les grandes vacances, mais en même temps à petite dose, parce qu'on allait dans la famille de ma mère, donc on parlait français. Je parlais, mon cousin, lui, était anglophone, puis quand on jouait avec les enfants dans le quartier, on parlait anglais, ou quand on allait dans les magasins, etc. Mais à la maison, c'était le français, parce que ma mère et sa sœur parlaient tout le temps français. C'était même un français encore plus français que ma mère ne
archaïque.
Parlait. Archaïque, des années 40.
Oui, c'est ça, c'est le français de
Céline.
Le français de France, comme j'ai appris à dire depuis que je vis ici. Mais là, tout à l'heure, vous avez dit, avec vous avez évoqué une famille. Est-ce que vous étiez fille unique? Dans quel contexte vivez-vous dans votre enfance?
Ok, alors j'ai un frère, Nicolas, qui a quelques années de moins que moi, qui a 3 ans de moins que moi. Et j'avais un demi-frère qui était le fils de ma mère, qui est mort depuis, mais qui venait de temps en temps, parce que lui était pris aussi entre les continents. Et il avait 14 ans, 7 plus que moi, et il venait au Québec de
du
temps en temps.
Le premier mariage de votre mère.
Exactement.
Oui. Mais donc, vous allez à l'école à cette époque-là. Quel est votre contact avec l'école à vous? Qu'est-ce que vous aimez ça? Quelles sont les choses que vous aimez faire à l'école?
Ah ben, j'adore l'école. Je n'en suis pas sortie, hein.
mais
j'adorais l'école à l'époque. C'est-à-dire, c'était le lieu où j'avais l'impression que je pouvais exister, que je sortais d'un certain poids familial. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que j'étais un écrivain de l'enfance. Je pense que l'enfance est très importante pour moi, mais une enfance très... l'enfance, pour moi, c'est très souffrant aussi.
Oui.
Et aller à l'école, pour moi, c'était la libération. Hein, c'était vraiment, enfin, je vais connaître d'autres gens, je vais entendre d'autres voix que celles de mes parents. J'étais absolument ravie d'aller à l'école.
Et donc, quelles sont les matières? Est-ce que tout de suite, vous avez un souvenir des matières ou des livres qui vous ont capté?
Ben, je peux pas vous dire. Les matières, c'était tout parce que j'aimais beaucoup apprendre. J'aimais beaucoup apprendre les choses par cœur. J'adorais apprendre des poèmes, les récitations, on disait. C'est ça, je viens de me rappeler.
Les récitations.
Les récitations, j'aimais ça. Mais des livres, je ne pense pas que j'ai lu des livres très jeunes. Je pense que j'ai commencé à lire vraiment vers 10-11 ans. Petite, je lisais les livres, des morceaux de textes qu'on avait dans nos livres de classe. Mais des livres, pas vraiment, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, mes parents n'étaient pas des grands adeptes de livres. Il n'y en avait pas à la maison. Et c'est justement pour ça que j'ai tellement aimé l'école, parce que il y avait des livres, il y avait la possibilité de se cultiver, d'aller dans d'autres mondes.
Mais alors, que faisait votre mère à la maison? Elle était...
elle faisait des dépressions. Elle était excessivement déprimée. Elle a fait d'énormes dépressions pendant des années. Donc, c'est ça, elle nous a gardé avec elle. Je suis allée à l'école seulement à 6 ans et demi, donc elle nous gardait avec elle pour ne pas être trop déprimée, mais nous portions un peu sa dépression. Et, donc, je vous dis, c'est pour ça que je pense que l'école a été très libératrice en ce sens-là.
Oui, oui. Par exemple, est-ce que vous avez vos souvenirs, comme ça, même si c'est à 10 ou 11 ans, mais des livres qui vous ont marqué dès le début, et pour quelles raisons?
Ben, je lisais, comme tout le monde, je pense, la Comtesse de Ségur. Je lisais aussi une collection blanche de livres qui s'appelait Contes et légendes.
Ah oui, vous avez du Coq d'Or, que moi,
oui,
je les avais.
Oui, exactement.
Aussi,
ça, je me rappelle, ça valait $1, on les achetait aux Galeries d'Anjou, et on les achetait de temps en temps, une fois par mois, on allait, j'oublie la librairie, c'est le nom de la librairie, mais c'était la librairie aux Galeries d'Anjou, Classic Book, c'était en anglais, et on allait là, et j'achetais ces livres qui valaient $1, et que j'économisais pour avoir ces livres-là, et à Noël, mes tantes d'ici me donnaient ces livres, Contes et légendes du Liban, je me rappelle, j'adorais ces livres-là, puis ils étaient très beaux aussi.
Oui, oui, mais je m'en souviens très très bien, je les vois. Parce que j'en ai de la même génération et donc je vois très bien aussi ces livres-là, mais ça forme aussi toute cette intérêt ou cette culture de l'ailleurs. Quelle était pour vous l'image de la France que vous aviez alors, si votre mère vivait toujours à moitié en France et à moitié ici, et vous, comment vous aviez?
J'avais pas tellement la France, je dois vous dire. C'était comme c'est ce qui pour moi m'enlevait ma mère. C'est-à-dire, ma mère, pour moi, elle était encore en France. La dépression, c'était de ne pas être capable de venir ici. Et je n'aimais pas tellement la France. C'était pour moi un pays. Puis je suis allée en 64, donc j'avais 3 ans, mais je ne m'en rappelais pas vraiment. Mais je suis retournée à 10 ans, puis j'aimais vraiment pas ça. Je trouvais que c'était un pays très vieux, pas moderne. Je détestais. J'aimais pas les odeurs en France. Oui. Pas être capable d'aimer ce pays-là. La seule chose que j'aimais de la France, c'est quand on nous envoyait des paquets. Et puis, là, il y avait des gâteaux, des choses comme ça, des confiseries qui venaient de ma grand-mère ou des tantes de ma mère. Ça, j'aimais ça. Mais autrement...
Rêve, là, aussi.
Oui, c'était du rêve. C'était aussi c'était du rêve d'enfant aussi, c'était de la confiserie.
C'est ça, mais c'est que ça semble être un rêve qui n'est jamais à la hauteur du rêve de la mère.
Non,
la
c'est
réalité
ça.
Est jamais...
C'est vrai, tout à fait. Puis bon, mais la France m'a jamais plu, même si... Puis en plus, on me disait, un jour, tu retourneras en France, donc...
Ça, vous êtes élevée dans le fait de vous retourner en France.
Pour mes parents, en fait. C'est-à-dire, ma mère me disait, peut-être moi, j'y retourne... À la fin, elle me disait, peut-être moi, j'y retournerai pas, mais toi, tu retourneras en France. Moi, je retournerai pas, mais bon, elle imaginait que c'était le retour, et puis tu vivras la vie que moi, j'ai pas vécue. Mais...
Oui, c'est sûr, dans un autre contexte. Pourtant, vous allez au lycée Marie de France.
Oui.
Donc là aussi, il y a tout un contexte qui est...
Ah non, mais ça, oui.
Une transposition. Comment vous le vivez, ça?
Oh, je le vis très mal. C'est-à-dire que je vais à Marie de France et j'ai l'impression qu'on me remet en France. C'est-à-dire, moi, je rêve d'aller dans une école publique québécoise et on me remet en France. J'ai des professeurs qui sont très gentils, tout ça, mais j'ai l'impression que c'est des substituts de ma mère et que même si il y a quelque chose à... Même si j'aime l'école, ce contexte français à l'étranger me déplaît particulièrement. Et je garde de ces années-là pas des très bons souvenirs, même si j'ai passé 7 ans à Marie de France. Je peux pas dire que j'y ai été très bien.
Mais ça, c'est l'adolescence?
Oui, ça, c'est l'adolescence.
Alors, une adolescence, c'est déjà quand on a une enfance sous. Oh là, j'ai fait un lapsus extraordinaire. J'ai dit, quand on a eu une enfance souffrante, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas? Tout le monde a très bien compris. Alors, après l'adolescence, ça ne s'est pas arrangé. Comment avez-vous vécu cette adolescence-là? Oui. Quelles étaient vos portes de sortie? Parce que
Vous
m'avez dit que l'école était une porte de sortie, mais là...
Oui, oui. Non, mais là, je me plains de ma vie. Ce n'est pas la fille de la petite fille aux allumettes, là. Mais je veux dire, c'est vrai que je ne suis pas bien enfant. C'est-à-dire, je ne me sens pas bien. Je n'ai pas une enfance où je me sens heureuse, vraiment. Oui. Et l'adolescence, c'est la même chose. Alors, les portes de sortie, il y en a très peu. C'est beaucoup les livres, c'est beaucoup la culture, c'est beaucoup la télévision. Moi, j'aimais beaucoup la télévision en français, en anglais. Quand j'étais enfant, c'est tout ce qui m'ouvre sur le monde. Et donc,
Vous avez dit récemment que vous aviez été élevée par la télévision et que vous en étiez heureuse, en fait.
Oui, parce que ma mère est très dépressive quand je suis enfant. Elle nous laisse faire ce qu'on veut. On regarde la télévision jour et nuit. On se couche après elle parce qu'on regarde la télévision. Et j'ai appris beaucoup de choses à la télévision enfant. C'est-à-dire, il y avait des très bons programmes. Puis je regardais aussi les programmes des grands parce qu'on me laissait faire ce que je voulais. Et moi, j'aimais beaucoup la télé, mon frère aussi. Et on est restés des téléphages. On regarde énormément de télévision tous
oui.
les deux.
Mais en même temps, pour des enfants complètement, je dirais, livrés à la télévision ou à la culture, ou etc., tous les deux, et votre frère et vous, quand même des gens très cultivés. Alors, ça va dans le sens contraire. Je dis ça parce que c'est une idée reçue qu'on a,
qui est
apparemment, justement, pas vraie.
Ben
on peut très bien apprendre des choses quand même.
Ben moi, j'ai beaucoup appris à la télévision. Peut-être que la télé a changé aussi. Genre,
oui.
Je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais moi, j'ai beaucoup appris à la télévision. C'est-à-dire que je le raconte à un moment donné, la première fois que je vois Jean-Paul Sartre, c'est à la télévision.
Oui.
C'est comme ça que je me suis mise à lire Jean-Paul Sartre parce que je n'avais pas de lieu où on m'aurait parlé à l'école, mais plus tard, on m'a parlé de Jean-Paul Sartre. Mais la première fois que je vois Jean-Paul Sartre, c'est à la télévision et j'ai envie de lire parce que je vois ce bonhomme qui parle dans une entrevue. Donc, la télévision... pour moi, est un lieu où on trouve des bonnes choses.
Hein. Oui, c'est sûr. Mais
Moi aussi, j'en ai regardé énormément au même moment. Donc, ce que je voulais justement souligner, c'est que vous avez fait votre doctorat sur la langue originelle et c'est langue originelle, langue étrangère. Or, on dirait vraiment que ce contexte-là est exactement celui que vous avez décrit de votre enfance et de vos origines et du choix d'une langue finalement différente, du français, mais différent. Est-ce que vous avez eu besoin de clarifier cet aspect ou...
Je ne m'en suis pas du tout aperçue quand j'ai fait ma thèse, c'est-à-dire je ne me suis pas du tout aperçue que c'était personnel. J'ai voulu faire... Je voulais travailler sur comment on imagine que l'autre... Comment les écrivains imaginent que l'autre langue est le meilleur. Hein, il y a un fantasme d'une langue idéale qui serait une autre langue. Et je ne me suis pas du tout aperçue de ça. Mais c'est vrai que moi... Moi, j'ai un rapport au français qui est assez étrange, c'est-à-dire que je ne pense pas que je pourrais écrire dans une autre langue, même si je pourrais parler ou je parle d'autres langues. Mais par contre, j'aime bien déformer le français, c'est-à-dire que j'ai un rapport même violent au français. J'aime aussi les écrivains qui ne respectent pas trop la langue, qui la déforment. Je pense que la langue, je l'aime dans la mesure où on a un rapport pas toujours respectueux à elle.
Oui, mais c'est un rapport non seulement libre, mais finalement, c'est aussi la seule façon de la maintenir vivante.
Tout à fait, c'est-à-dire, c'est aussi une façon de se l'approprier.
Hein. Oui.
Je pense qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui arrive à défaire la langue puis à se l'approprier. Et j'aime particulièrement les écrivains qui font des choses avec la langue.
Mais alors, justement, c'est une réaction aussi à l'académisme.
Bien sûr, bien sûr. C'est une réaction aussi à mon éducation dans une école très classique, ça c'est sûr.
Et aujourd'hui, vous faites métier de transmission des langues des littératures en langue française. Alors justement, on dirait que c'est comme si la rebelle devenait la théoricienne.
J'essaie quand même dans mon enseignement de privilégier la littérature. C'est-à-dire que moi, ce qui compte pour moi, c'est les textes littéraires. C'est pas tellement la critique littéraire.
Oui.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les étudiants lisent des livres. Mmh. Et je pense que je pense que l'université se perd souvent dans la théorie, ce qui est bien, c'est un métier, c'est bien la science, mais je pense qu'à l'université, on a tendance à oublier de donner aux étudiants le goût de lire. Et moi, je crois que c'est avec le temps, je pense que c'est ce à quoi je tiens le plus. C'est-à-dire que la seule chose que je pourrais transmettre, c'est ce désir de lire ou cette nécessité de lire, parce que le reste, je crois que ça s'oublie. Mais ce goût de lire, je pense pas.
Oui, mais justement, c'est ce qui nous reste quand on a tout oublié, comme disait l'autre. L'autre, c'est, vous avez dit récemment, vous parliez de Jean-Paul Sartre, mais vous avez dit récemment à propos de votre dernier roman que c'était une époque à laquelle à la fin de cette adolescence, à la fin de ces études à Marie de France, vous lisez La Nausée. Bon, je suppose, parce que c'est vrai que, je ne sais pas si vous lisiez, vous aussi, vous suiviez le Lagarde et Michard, mais enfin, il n'y a pas à sortir du Lagarde et Michard, il y a un certain nombre de choses à lire. Avec le temps, on est content de l'avoir fait, parce qu'il y a ça aussi dans l'académisme. Il y a toute l'obligation d'avoir suivi le cursus et d'avoir lu même ce qu'on n'avait pas envie de lire. Mais finalement, ça reste.
J'ai pas le même rapport que vous à ça. C'est-à-dire que
c'est une question.
Mais je suis pas si contente d'avoir fait La Guerre des Michards. C'est-à-dire que cette façon de faire des morceaux choisis ne me plaisait pas. On n'avait jamais accès au texte. Hein. On lisait très peu de livres complets pendant jusqu'à 16 ou 17 ans. On lisait surtout des morceaux de texte. Et puis, pourquoi j'en ai contre l'académisme? Peut-être parce que j'avais l'impression justement qu'on ne nous donnait pas accès à ce désir de lire. On nous montrait la littérature comme un devoir ou la philosophie comme un devoir. Et on n'a pas réussi à me rendre absolument quelqu'un du devoir. Mais je pense que ça a marché sur beaucoup et ça a beaucoup dégoûté de gens de cette façon de faire. Donc,
mais il y a l'inverse aussi, c'est-à-dire, c'est une vraie question. Enfin, moi, je sais que personnellement, on suivait La Guerre des Michards, mais on avait l'obligation de lire les livres, pas juste les extraits, mais c'est une obligation, c'est sûr. Ceci dit, est-ce qu'on a trouvé la réponse à ça? Je dirais, est-ce qu'on a trouvé la réponse inverse quand on a changé le système, notamment après dans les années 70, autant en France qu'ici d'ailleurs, et qu'on a essayé de privilégier le fait de laisser chacun lire ce qu'il voulait. On a perdu aussi beaucoup à ce moment-là. Oh. Donc, est-ce qu'on a la réponse ?
Non, je ne pense pas qu'on ait la réponse. C'est sûr qu'on ne l'a pas, mais je pense que je privilégierais une éducation qui va plus en profondeur que dans le panorama. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas tellement l'idée de faire, de savoir...
Avoir tout lu.
Avoir tout lu, mais sans l'avoir vraiment lu. Je préfère une éducation qui va essayer de lire peu, mais bien. Et j'avais l'impression de lire beaucoup, mais pas si bien que ça. Mm-hmm. Donc, c'est un petit peu ça que je reproche au système d'éducation que j'ai eu. Ça ne veut pas dire que je veux laisser les étudiants, je laisse d'ailleurs pas mes étudiants libres de lire ce qu'ils veulent, mais je pense qu'entre les deux, il faut privilégier une éducation qui permette à l'étudiant et à l'étudiante d'aller en profondeur dans un texte, de se donner à une œuvre. Et là, on n'avait pas la possibilité d'aller dans une œuvre totalement.
Ça, aujourd'hui, c'est ça, mais aujourd'hui, vous êtes mère aussi. Donc, cette question-là se pose toujours à chacun des parents qui a un enfant et qui, à un moment donné, se trouve confronté à ça. Quelle est la réponse que vous donnez aujourd'hui à ça, justement, par rapport à votre fille ?
Je fais confiance au système d'éducation dans lequel elle va à l'école au coin de la rue et je fais confiance à ça. Je vois des très bons résultats, c'est-à-dire qu'elle apprend à lire, à écrire, à se développer de façon tout à fait intelligente. Et c'est sûr que mon travail aussi, c'est de la pousser à lire. Mais ma fille est dans un milieu où il y a des livres tout le temps. Oui. Donc, je ne pense pas qu'elle aura de difficultés à lire si elle a envie de lire, je vais l'aider à faire ça. C'est vrai que peut-être dans des milieux où on a moins accès aux livres, il y a des formes d'éducation qui vous permettent moins de pouvoir avoir un contact avec les livres, mais moi j'ai confiance dans un système qui travaille sur le développement de l'enfant. Oui. Et j'ai absolument confiance dans le système québécois, même si il y a des choses qui sont imparfaites, mais je ne serais pas nostalgique de quelque chose de plus classique. Ça, non, pas du tout.
Mais alors, c'est exactement là où je voulais en venir, c'est que quand même, ce système québécois, alors nord-américain, mais en français, parce que vous l'avez aussi choisi en français, vous auriez pu mettre votre fille, je sais pas, dans un système anglais, etc., anglophone, mais a beaucoup évolué, si vous pensez en 30 ans en arrière, 30, 35 ans en arrière.
Le système québécois, c'est là où...
Oui, et l'approche au français au Québec et l'approche à la littérature au Québec, c'est toute une révolution parce que c'est ça aussi qui est intéressant et vous avez été au cœur de tout ça. Si vous faites une rétrospective, qu'est-ce que vous en gardez de ces 30 années-là ?
Je pense que ce qui s'est passé ce qui a été important dans l'enseignement de la littérature au Québec, c'est que d'un seul coup, on a enseigner les œuvres québécoises.
Oui.
Ce qui n'était pas toujours le cas quand les gens faisaient leur séminaire ou leur cours classique. On avait des œuvres qui étaient toujours... Il y a aussi le corpus francophone plus large qui s'est ajouté aux études on a l'impression que comme nous partageons maintenant la même langue, nous sommes de la même culture et on va lire des œuvres de gens qui ne sont pas de France mais qui parlent français. Donc ça, je pense que c'est très important dans l'enseignement de la littérature de langue française, c'est d'avoir acquis la possibilité de faire entendre la littérature québécoise à l'intérieur du cursus et puis aussi de faire entendre d'autres littératures francophones.
La littérature québécoise au sein du cursus francophone.
Oui, tout à fait.
Et pas d'avoir juste l'Académie française.
Exactement.
Tout en haut.
Je pense que sans rayer de la carte la littérature française, mais juste mélanger. Ce mélange-là me semble très important. Mélange qu'on ne retrouve pas de la même façon en France. Hein, même s'il y a une ouverture vers la littérature francophone qui se fait, on ne va pas avoir ce même rapport-là.
Bon, c'est sûr qu'au lendemain du dernier Goncourt et du dernier Renaudot, par exemple, on peut se féliciter
de l'ouverture. Oui, tout à fait.
Mais c'est les exceptions qui confirment la règle aussi. Donc, c'est un autre contexte. Mais c'est aussi une littérature nord-américaine, alors. Donc, oui. Dans un contexte américain. Donc, ma question serait aussi, comment vous, à la fois comme écrivaine, donc comme partie active et comme enseignante universitaire et chercheuse, vous définiriez la littérature québécoise parce qu'elle est aussi, je dirais, dans une révolution, elle, de 30, 35 ans, c'est 40 ans. C'est une littérature qui est une espèce de boom extraordinaire comme ça sur quelques décennies.
Vous m'en demandez beaucoup là, de définir la littérature québécoise. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur de cette tâche-là.
Non, mais qu'est-ce que vous voyez comme caractéristique, je dirais, au sein d'une littérature à la fois francophone et nord-américaine?
Mais ce que je peux vous dire, c'est que... Je vais dire le contraire. C'est que je n'ai pas envie de la définir parce que je trouve qu'on a essayé beaucoup de définir une spécificité de la littérature québécoise. C'est qu'on a beaucoup voulu dire la littérature québécoise, c'est ça. Bon. Et moi, ce que j'aime en ce moment dans la littérature québécoise, c'est qu'elle s'ouvre. Oui. C'est que beaucoup de choses sont possibles dans cette littérature. Il y a quelque chose qui se passe. Et depuis d'ailleurs beaucoup d'années. Et c'est plutôt à ça que je serais attentive. C'est-à-dire, ce que j'aime en ce moment, c'est l'impossibilité de définir la littérature québécoise. Oui. J'aime bien ce flou qui me semble être la marque des littératures de par le monde. C'est-à-dire, on aurait quand même du mal à dire ce qu'est la littérature française. Et là, je trouve que c'est intéressant de pouvoir, justement, ne pas savoir. Alors que peut-être, dans les années 60, on aurait pu dire la littérature québécoise, c'est quatre auteurs où on les avait, et puis on peut dire qu'il y a des préoccupations nationales. Là, on est dans un espace de retrait, dans une espèce de vide, et que je trouve salutaire, et qui, pour moi, marque un chemin de la littérature québécoise.
Qui assure son effervescence aussi,
tout à fait,
justement.
Tout à fait. Et justement, j'aurais tendance à essayer de ne pas la définir.
Pour la laisser libre.
Pour
et
la
se
laisser
développer
libre.
Aussi, oui. Parce que c'est aussi parce qu'elle est dans un moment d'accueil.
Exactement.
Je trouve qu'elle est dans un mouvement d'accueil, justement. Mm-hmm. Alors, bon... On vous a laissé à la fin de l'adolescence, retournons-y.
Mais laissez pas là.
Non, c'est sûr. Non, mais à quel moment est-ce que vous décidez de faire des études de littérature? Parce que vous sortez d'un contexte... Bon, comment est-ce que ça se passe à cette époque-là? Alors, c'est une époque très importante, on fait des choix. Comment les faites-vous?
Alors, je fais une demande de... Pour aller à l'université, je fais en fait trois demandes à la fois. Je demande d'être en littérature, en philosophie et en histoire. J'hésite entre les trois.
Oui.
Je ne sais pas comment choisir. Je sais que je suis quelqu'un des lettres, mais je sais que... Ou de la philosophie, mais je sais pas trop quoi. Alors, ma mère m'envoie en France. Je viens de passer mon baccalauréat à Marie de France. Ma mère m'envoie en France pour que je fasse une grande école. Elle m'envoie dans un lycée pour faire... une école qui va me faire que je devrais 10 ans à l'État français. Et je reste 3 semaines.
Oui. Hein?
Je troque les 10 ans contre les 3 semaines. Je lui dis, je ne peux pas, je reviens à Montréal. Et même si tu ne m'aimes plus, je vais vivre à Montréal. Je choisis Montréal à 18 ans et demi, vraiment, parce que je décide de ne plus jamais faire mes études en France et de vivre en France. Je le savais, mais je ne l'avais jamais vraiment dit à ma mère. Donc, en revenant... mes inscriptions en philo et en histoire sont parce que je m'étais donné quand même la possibilité de revenir. Moi, dans ma tête, je savais que je reviendrais peut-être. Hein. Alors, mes inscriptions ne marchent pas. Et le seul endroit où on veut me prendre, c'est en littérature, à l'Université de Montréal, parce que j'arrive avec 4 semaines de retard. Et on m'apprend là. Donc, j'ai commencé la littérature. Et puis, c'est là que ça s'est décidé. Un hasard, mais un hasard calculé. Une espèce de manigance contre ma mère. Bon, mais j'ai...
Moi, j'avais exactement la même hésitation, exactement à la même époque, mais moi, on m'a mis à Cagnes, justement, pour pouvoir faire les trois et puis partir ailleurs. Et au bout de quelques mois, je suis partie aussi. Bon, mais pour faire histoire, parce que là, c'est juste l'endroit où on m'a pris. Mais c'est pour dire que c'est une époque particulière aussi, la fin des années 70. C'est une époque particulière.
C'est vrai.
Qui est aussi une époque à la fois de grande exaltation. On a vécu énormément de choses dans les années 70. C'est les années 80 vont être aussi... et c'est une génération un peu coincée entre deux autres, non? Est-ce que vous avez vécu ça dans cette notion d'être à la fois les héritiers de 68 et en même temps... Ne plus trop croire à tous ces idéaux-là, parce que c'est ça, c'est une génération un peu charnière.
Mais moi, je pense que je me suis pas du tout vue comme dans la charnière. C'est-à-dire, comme j'avais un frère qui avait 14 ans de plus que moi, mon demi-frère, je me suis vue comme complètement de 68, même si j'avais 7 ans en 68.
Oui.
Et même, mais mon prof de philo que j'ai eu au collège, lui, était un 68 tard. Et je me suis toujours identifiée à cette génération-là, même si je suis un peu la queue de la comète. Oui. Là. Mais j'ai toujours eu l'impression, moi, de faire partie de cette génération-là.
Oui.
D'ailleurs, d'être même décalée par rapport à ceux qui ont mon âge et qui ne se sentent pas tout à fait de cette génération-là.
Oui.
Moi, j'avais l'impression que tout l'imaginaire de mon grand frère m'avait attirée et que je faisais partie de cette... mon grand frère me parlait de la Beat Generation, vous voyez, des choses comme ça. Et j'avais l'impression que c'était mon époque, même si elle n'était pas totalement... J'étais encore décalée géographiquement.
C'est donc une relation importante aussi que celle-là, avec ce frère-là.
Ben, je n'ai pas beaucoup connu mon grand frère, mais ça a été très important. Oui, il a été très important. Mais je le connaissais parce qu'il n'était pas très souvent là. Il vivait en Europe. Mais oui, ça a été une relation importante.
Néanmoins, l'histoire, la philosophie, que bien sûr, on va retrouver l'histoire toujours dans vos livres, aussi en toile de fond, est une réflexion philosophique et littéraire sur l'histoire, beaucoup. Mm-hmm. Dans tous vos romans, on retrouve ça. Là, vous faites vos études, c'est toutes les années 80. Je sais qu'en 89, vous passez votre doctorat. Mais comment ça se passe? Est-ce que déjà, à cette époque-là, vous vous destinez à devenir écrivaine?
Ah, pas du tout. Je fais mes études pendant 10 ans. Je fais mes études et je fais une psychanalyse aussi parce que je vais pas bien. Parce qu'après être venue de France, c'est très difficile pour moi d'assumer qui je suis. Je fais, pour imiter ma mère, je fais une dépression. Et je continue mes études et je décide de faire une psychanalyse. Justement, enfant de 68, je fais une psychanalyse et je fais mes études en... Sans grand espoir, c'est-à-dire je me dis c'est bien, j'arrive à m'en sortir. Si j'arrive à faire mes études, c'est déjà pas mal, et si j'arrive à survivre à tout ça, c'est pas mal. Alors je me destinais vraiment à l'enseignement. Je pensais que j'allais enseigner. Est-ce que à cette époque je veux devenir écrivain? Pas du tout. C'est-à-dire que c'était quelque chose que j'avais quand j'étais enfant. C'était un désir enfantin, j'allais dire, oui, aussi. C'était un désir de l'enfance, mais je pense que dans les années 80, ce désir-là me quitte. C'est-à-dire quelque chose qui... J'écris, mais je me dis je serai jamais une écrivaine. Ça me quitte. Je me dis je vais devenir une universitaire et puis ça me suffit. Il y a quelque chose quand même qui s'efface à travers ça. Peut-être à cause des difficultés de la vie. Ça me quitte. Et puis ça va revenir très tard. En fait, mon premier texte date de 2000. J'ai 39 ans en 2000. Hein. Donc,
il y a quelque chose qui s'efface. Mais vous avez dit dans l'enfance, ça veut dire qu'à quel moment dans l'enfance est-ce que vous avez eu cette idée très précise d'écrire?
Ben c'est parce que quand j'étais petite, on me disait tout le temps que tu sais que ce que j'écrivais ça avait une certaine valeur, et puis moi j'avais l'impression que quand j'écrivais je me trouvais, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose j'étais tout au fur et à mesure, je n'ai jamais rien gardé de ça. Il y avait quelque chose de l'écriture était pour moi liée à une douleur qu'il fallait que je surmonte et que j'ai cru avoir surmonté dans la vingtaine par les études, etc. Et puis, ça m'est revenu dans la trentaine, quoi. Ça m'est revenu à la fin de la trentaine.
Mais quand on est dans une psychanalyse, en plus, on écrit quelque chose. On est justement dans une autre recherche, dans une autre forme d'écriture. Que ça a été, je dirais, c'est vrai qu'il y a côté générationnel, mais c'est aussi des années très troubles, les années 80, avec les épidémies, les maladies, toutes les choses qui reviennent. On est aussi la première génération après les guerres, mais on est quand même porteur de la guerre. Enfin, il y a beaucoup de choses, comme je disais tout à l'heure, qui est la littérature, chez vous, la littérature comme outil d'analyse de l'inconscient, des liens entre l'inconscient collectif et l'inconscient individuel, de l'histoire personnelle, de l'histoire avec un grand H. Et tout ça appartient aussi à la psychanalyse. C'est des années, les années 80, où on pensait aussi que tout le monde devait faire sa psychanalyse et que c'était la panacée, qu'on allait trouver une réponse.
Oui.
Est-ce que vous avez cru ça ?
Ah, absolument. C'est-à-dire que j'ai... Mais ça, la psychanalyse m'a beaucoup aidée personnellement. C'est-à-dire
oui.
que je pense que la psychanalyse m'a sauvée, bon, parce que de ma famille encore, là, etc. Mais j'y ai cru comme projet collectif. C'est-à-dire que c'est vrai ce que vous dites. Moi, j'ai cru que tout le monde devait faire une psychanalyse. Mmh. J'embêtais tout le monde. Je devais en avoir marre de moi parce que j'étais tout le temps en train de dire « Tu dois faire une psychanalyse, tu sais. » oui. Et j'étais très sérieuse. Et bon, alors, je pensais que c'était la solution collective. Hein, dans oui, une espèce oui. de psychanalyse et politique dont je faisais partie d'un mouvement qui s'appelait psychanalyse et politique. Donc, j'y croyais complètement. Est-ce que l'écriture là-dedans... l'écriture, pour moi, là-dedans, devait presque pas exister. C'est-à-dire que l'écriture faisait encore partie de mes symptômes. Je me suis forcée à ne pas écrire et puis j'ai réussi pendant quelques années à ne pas écrire.
Alors justement, j'aime beaucoup cette phrase, j'ai réussi à ne pas écrire et puis parce que de quoi naît l'écriture finalement, justement, du fait qu'on arrive au bout de toutes ces résistances et finalement, quand il n'y a plus de réponse, il y a l'écriture.
Ouais, ben, ça a été... Je pense que l'idée était toujours là d'écrire. J'avais cette idée-là, puis ça, c'était un désir qu'on renonce jamais à un désir, dit Freud. Hein? Donc, je pense que j'y avais ce désir-là auquel je renonçais pas. Mais ce qui m'est arrivé à un moment donné, ça a été un déclic. Je ne sais pas pourquoi. Ça a été je vais à un party de Noël. Je me rappelle très bien hein, du moment où j'ai décidé que j'allais écrire. Je vais à un party de Noël, et puis on m'annonce. Je parle à quelqu'un qui m'annonce. La mort d'un ami que j'ai eu il y a des années. Il est mort du sida. J'apprends cette mort. D'un seul coup, je me dis, mais j'ai connu plein de gens qui sont morts du sida. Il faut que j'écrive sur ça. D'un seul coup, je peux pas vous dire, c'est dans ce party de Noël à l'université, où d'un seul coup, je me dis, si je parle pas de ça, il y aura quelque chose que j'aurais pas fait. Oui. Et d'un seul coup, je me dis, il faut que je témoigne de ça. Il faut que je parle de ces gens-là. Il y a quelque chose qui doit se faire. Et c'est là que je commence à écrire, mais je vais dire modestement, c'est-à-dire des petits fragments, des textes ça va devenir d'œil cannibale et mélancolique, mais des textes qui sont des témoignages sur des gens qui sont morts autour de moi.
Mais comme quoi, parce que ça me frappe, bon, évidemment, mais c'est quand même générationnel. Il y a des choses qui appartiennent justement à une collectivité. Même si j'étais à Paris à cette époque-là, mais bon, c'était évidemment universel. Moi, dans un milieu beaucoup de danse, donc très touchée par le sida, mais c'est quand même l'événement de la moitié des années 80.
Ah ben oui, ça c'est sûr.
C'est comme une deuxième guerre ou la deuxième guerre étant directement écrite dans le traité de Versailles, donc dans la façon dont on a traité les suites de la Première Guerre mondiale. Quasiment la deuxième guerre est quasiment inscrite sur le papier. Dans les années 80, on a cette épidémie-là que beaucoup de gens ont vécu justement, soit comme une punition divine, bon, la peste rose, soit comme une guerre aussi générationnelle. Donc, ça a transformé complètement cette période-là. Comment est-ce qu'on aurait pu éviter d'inscrire les choses ? Parce que souvent, ça a touché une génération un peu plus âgée aussi.
Ben, je pense que ça a décimé une génération. C'est vrai que tous les gens qui avaient 10 à 15 ans de plus que moi, il y a eu vraiment une grande... Je me rappelle la mort de Klaus Nomi en 83, qui était un chanteur. Ouais. Pour moi, c'est le début du sida. Ouais. Ça existait déjà, mais pour moi, c'est là que commence... ce qui sera l'hécatombe, hein, et puis bon, mais générationnel, oui. Moi, je crois que les générations sont marquées. Je pense que vous avez raison. Les générations sont marquées par des morts collectives. Hein, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est la mort collective, hein, la mort individuelle bien sûr, mais les guerres me touchent parce que c'est des morts collectives. Le sida est une mort collective aussi, même si on meurt sur, les gens sont morts sur plusieurs années. Là, en Afrique, il y a aussi une mort collective. Je pense les générations sont marquées par ces morts collectives là. Et ma génération, c'est vrai que ça a été la mort par le sida. Hein, c'était d'un seul coup, il y a eu des gens beaucoup, beaucoup de gens que je connaissais qui sont morts.
Les générations sont marquées, pour revenir à votre titre, par des vagues de deuil cannibale et mélancolique.
Tout à fait.
Toutes. Et cette génération-là, de gens qui avaient une quinzaine d'années de plus que vous, sont justement des baby-boomers, ceux qui avaient échappé à l'autre mort collective dont ils sont nés, en
c'est
fait,
vrai,
d'une
fait.
Certaine façon. Ça se reproduit. Bien entendu, c'est pas par hasard qu'on parle de ça. On va directement, là, à la fin des années 90, 2000, beaucoup de gens pensent qu'il va y avoir un bug informatique, mais pour vous, c'est un bug littéraire. C'est effectivement la naissance littéraire. Et vous inscrivez là-dedans. Je réfléchissais à ça en me disant, est-ce que la littérature, finalement, ne naît pas toujours d'un rapport à la mort, finalement? Parce que quand on regarde l'ensemble des écrivains, il y a toujours une sorte de résistance à quelque chose qui aurait pu être fatal et qui donne naissance à... Est-ce que c'est du désir? Est-ce que c'est un détournement? C'est un besoin de témoigner. Est-ce que c'est un besoin de conjurer?
C'est un besoin de témoigner. C'est aussi un besoin de conjurer, quoique je ne pense pas que la littérature réussisse à conjurer la mort. C'est-à-dire que je ne pense même pas qu'écrire un livre soit thérapeutique. Je crois que souvent, même écrire un livre, il y a quelque chose d'un enfoncement dans la douleur ou dans la souffrance. Mais c'est vrai que pour moi, je ne pense pas que ce soit vrai pour tout le monde, par contre, mais pour moi, la littérature a quelque chose de lié à la mort. Ça, je pense que c'est quelque chose qui nous permet de regarder la mort en face ou de côté, si on n'arrive pas à regarder bien en face, mais qui nous permet d'avoir un rapport à notre mortalité. Mais aussi, ce que je veux dire, la littérature aussi nous permet aussi d'avoir un rapport à quelque chose d'une transcendance, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire à quelque chose de grand. Et là, je pourrais dire qu'elle conjure d'une certaine façon la mort, c'est-à-dire qu'elle permet de penser à, non pas parce que les écrits restent, parce que je ne suis même pas sûre que les écrits restent, mais je me dis, à travers l'art, les humains arrivent à voir quelque chose de très grand que peut-être Dieu qui n'existe plus pour tout le monde... Bon, peut-être Dieu se manifeste encore dans l'art, mais en fait, ce qui reste de Dieu, c'est-à-dire une transcendance, quelque chose qu'on ne sait pas, un mystère, disons un mystère. Bon, qu'est-ce pourquoi on est sur la terre, qu'est-ce qu'on y fait, peut-être que ça n'a aucun sens, mais l'art peut parler de ça. Il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent parler de ça, du mystère de la vie.
Oui, c'est une participation active, créative, alors c'est le cas de le dire, au plus grand que soi. Même
exactement.
Si on y met, même si. Est-ce que justement, pour revenir à cette notion de psychanalyse, parce que ça m'intéresse beaucoup, je crois que c'est aussi générationnel, d'avoir compris qu'on n'allait pas tout comprendre, d'avoir compris qu'on n'allait rien guérir, d'avoir compris que ça n'était pas thérapeutique, c'est pas que ça sert à rien, mais ça sert pas forcément à ça, et alors il reste la réponse de la création, qui est en fait une participation.
Oui. Mais moi, je vais vous dire, je pense que pour moi, et là encore, ce n'est pas pour tout le monde, mais pour moi, la littérature est un luxe. C'est-à-dire que j'ai la possibilité de dire si j'allais vraiment peut-être très mal, comme j'étais dans les années 80, je n'écrirais pas. Oui. La littérature... Je peux aller mal en écrivant, mais j'ai quand même, je sais qu'il y a quelque chose en moi qui maintenant a dépassé une grande souffrance ou une grande douleur. Et je pense que j'écris dans un va-et-vient entre l'état dans lequel je suis maintenant, qui est un état quand même heureux, et puis la douleur que j'ai pu connaître, que d'autres connaissent d'ailleurs, et c'est ce va-et-vient-là qui permet, donc je le vois comme un luxe, je me dis, si j'allais vraiment mal, je ne suis pas sûre que je pourrais écrire, je sais qu'il y a des gens qui le font, moi je ne suis pas sûre.
Mais non, mais contre une idée reçue, souvent convenue,
de
la notion de la littérature, qui on écrit parce qu'on va mal et alors on se soigne, c'est pas ça du tout, mais en revanche, la littérature construit.
Oui, c'est
à
vrai.
Partir de la matière qu'elle a, ça peut être de la matière nucléaire, ça peut être de la mort.
Oui.
Ça peut être, c'est cette phrase de l'évangile de Saint Jean, si le grain ne meurt, alors il ne porte pas de fruit.
Oui.
Alors il faut qu'il y ait de la matière, de toute façon, pour que ça construise quelque chose.
Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de réparateur quand même dans la littérature, pour moi. Mais c'est un risque. C'est-à-dire, ça peut aussi bien réparer que... Enfin, je prends très au sérieux. Vous savez, quand on était petit, des fois, les parents vous interdisaient de lire parce qu'on dit, si tu lis trop, tu vas devenir fou. Hein, parce que les livres... Et je prends ça très au sérieux.
Moi, c'était, tu vas devenir myope, mais c'est vrai.
Mais vous savez, on interdisait à des gens de lire parce que ça contaminait. Oui. Bon, oui. Je prends ça au sérieux. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un pouvoir de la littérature à la fois réparateur et en même temps terrifiant dans la littérature. Oui. Il y a des livres qu'on ne veut pas lire parce qu'on a peur qu'ils nous contaminent ou qu'ils nous fassent du mal. Hein. Il y a des livres, des choses qui nous font peur. Je prends ça au sérieux et je le vois comme une des grandes forces de l'art. C'est-à-dire que l'art a un effet et bénéfique et parfois maléfique, mais dans un sens bénin. Et je prends ça au sérieux. C'est-à-dire, je me dis, tant mieux si la littérature a un pouvoir, hein, encore.
J'établis un lien, là, qui n'est évidemment pas fortuit, entre la littérature qui rend fou et autre chose qui rend sourd. Mais ça a de l'effet. Je ne suis pas sûre que ça soit très éloigné, justement. Donc, après, comment ça se passe, cette première, est-ce que vous vous souvenez encore de comment se passe cette première publication? Parce que la première publication, c'est toujours une révolution quand même, oui, personnelle. Il faut sortir de ce lieu où on est le seul à être certain qu'on est un écrivain pour partager et puis pour faire quelque chose qui échappe.
Oui, oui.
Parce que dans l'écriture, il y a de la maîtrise. Or, la publication est justement un lâcher-prise.
Oui.
C'est un mouvement double.
Mais comment ça se passe? De façon très pratique, j'ai beaucoup de mal à publier. C'est-à-dire, je ne sais pas parce que je n'envoie pas mes textes, j'ai envoyé 50 copies de mon texte. Mais on me dit non partout. Hein, j'ai du mal à publier. Et finalement, c'est Anne-Marie Alonso, chez Troyes, que je connais par ailleurs, qui me publie. Et je me dis, je suis ravie que ça soit elle, parce que j'avais beaucoup d'admiration pour Anne-Marie Alonso, qui était une grande poète. Mais aussi, en même temps, je me dis, bon, c'est parce que je connais des gens que je publie. Je veux dire, est-ce que quelqu'un qui connaît pas de gens peut réussir à publier? Vous voyez, je suis un petit peu méfiante, malgré tout, du milieu de la publication à ce moment-là. Je me dis, bon, est-ce qu'il faut être prof pour... vous voyez ce que je veux dire? Je m'interroge. Mais bon, le texte est publié, donc, et il est bien reçu.
Oui,
il est tout de suite bien reçu. Je sais pas pourquoi, parce que je pensais que ça serait un texte irrecevable, tellement lourd, hein, qui parle énormément de tous les morts qui étaient autour de la narratrice. Donc, j'ai du mal à m'expliquer au début pourquoi ça a plu.
Je vous ai posé cette question volontairement, d'abord pour démystifier le fait que, bien sûr, tout le monde connaît, je dirais, l'explosion Catherine Mavrikakis avec ce livre d'œil cannibale et mélancolique. Et on pourrait imaginer que tout de suite, quelqu'un a crié au génie et l'a publié. Et c'est pas ça qui est arrivé. Mais en revanche, quand le livre a vu le jour et donc il y a ce mouvement de lâcher prise que j'évoquais, à ce moment-là, il y a un retour et effectivement un écho de cette écriture particulière, sans merci, avec lucidité, mais en fait, le fait de ne pas raconter d'histoire, c'est drôle parce que c'est à la fois une écriture très littéraire et très singulière, mais qui ne cherche pas à raconter d'histoire, au sens de mystifier.
Non, j'essayais simplement de raconter brièvement des situations de gens qui mourait, mais j'essayais de donner un sens à ça. Et,
oui.
et puis, je montrais aussi comment il n'y avait pas de sens à tout ça. Je pense que les morts qui accompagnent ce texte n'ont aucun sens. Mm. Et c'est aussi ça que je voulais montrer, c'est que même si moi, j'ai besoin de sens, je ne suis pas sûre qu'il y en ait.
Mais on fait du sens avec de l'insensé, en fait. C'est aussi une possible définition de la littérature. On vous voit... avec je dirais là, au moins, il y a une voix qui est la vôtre et qui certainement est repérée, reconnue, malgré les difficultés. Je dis ça aussi parce que je fais le parallèle, mais je crois que c'était le 14 novembre 1913 est sorti un texte qui commence par « Longtemps, je me suis couché tôt ». Bon, et qui est celui de Proust, évidemment, mm-hmm. et qui est refusé partout, et qui, etc. Puis finalement, quand on imagine comment il a fait pour publier chez le principal éditeur qu'il avait refusé, mm-hmm. Il y a ce rapport entre l'écriture, la littérature, la transformation en littérature et la publication qui n'est pas un rapport simple, non. Même pas pour Proust.
Non, 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 mais je dis pas ça pour me plaindre parce que c'était pas pour vous dire bon j'ai beaucoup travaillé pour être publiée. Non, c'est pas ça du tout. J'essayais simplement de dire que je me demande dans quel milieu de publication nous sommes pour que j'ai eu l'impression d'avoir publié mon livre uniquement parce que je pense pas qu'Anne-Marie m'aurait choisi, mais parce que je connaissais un peu quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je voulais souligner, parce que quand je me retrouve devant des étudiants et je leur dis « Vous allez publier », mais ils me disent « Comment ?» J'ai envie de dire « Oui, comment ?» En effet, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai envie de dire « Bon, ben, ne vous découragez pas, parce qu'il y a peut-être toujours un hasard, il y a quelque chose qui va se passer, mais il est possible que vous ayez beaucoup de noms aussi, mais il faut croire à son écriture. »
Oui, il faut croire à son écriture, et bon, on ne va pas non plus parler juste de ça, mais je vous remercie d'en parler, parce que, je vous dis, il y a de la démystification d'abord, et ensuite, il y a quelque chose de la naissance d'une voix. Et quand ensuite elle existe, puis là, il y a cet accueil extraordinaire de ce premier texte, et à juste titre, là, d'un seul coup, on dit « Oh, mais c'est extraordinaire, mais on aurait pu passer à côté de cette voix. » Et c'est arrivé des milliers de fois pour beaucoup, beaucoup d'écrivains.
Mais ça arrive
et de très grands écrivains, et ça arrive tous les jours.
Je suis sûre qu'il y a plein de voix qu'on n'arrive pas faire entendre, et c'est bien triste.
Alors, le deuxième roman, lui connu aussi, cette fois-ci chez Le Méac, « Ça va aller », lui est un texte, toujours avec cette écriture exigeante qu'on a repérée et qu'on aime, mais qui se rapporte à la littérature québécoise, alors là, et à ses filiations, à sa définition, à ses filiations, à ses pères fondateurs ou non fondateurs, et puis une héroïne, en fait, qui est en même temps aux prises avec le fait d'avoir un enfant ou pas. Donc, on retrouve des thèmes qui sont très forts chez vous, qui sont à la fois celui de la recherche et de l'analyse sur la littérature, mais la littérature aussi comme un miroir de l'identité québécoise, et puis en même temps l'espoir dans le prochain que j'évoquais tout à l'heure, qu'on va voir aussi se développer dans les autres romans. Quelle était votre idée quand vous aviez... commencer à construire et à écrire, ça va aller.
Ça va aller, c'était un roman de la colère. C'était un roman qui était vraiment de la colère, pas du tout de cannibale et mélancolique, je crois pas. Mais avec ça va aller, il y avait comme une espèce de colère.
On a dit contre de la rage.
Oui, contre la littérature, je crois, contre aussi la lignée impossible dans laquelle on se trouvait au Québec, c'est-à-dire Hubert Aquin qui se suicide, qui était un auteur très très important pour moi, et une colère contre à l'époque contre l'impression que c'est pas une impression que j'ai totalement, mais ma narratrice avait l'impression que il y avait une certaine génération qui s'était barrée avec la littérature, qui était partie avec la littérature, puis c'était eux la littérature. Donc cette idée-là, comment être fille ou fils de ces grands écrivains québécois, qu'est-ce qu'ils nous ont légué, puis avec l'impression qu'ils nous ont pas légué grand-chose et que tout est à réinventer. Bon, mais ça, c'est pas nécessairement propre à la littérature québécoise, parce que moi, je pense à Mallarmé. Mallarmé disait la même chose de Victor Hugo. Il dit, Victor Hugo est parti avec la littérature, nous, on n'a rien. Il y a des choses comme ça. Il y a des cycles dans le monde.
Tout à fait, ça s'est déjà passé chez les Grecs anciens.
Voilà, mais cette impression qu'à un moment donné, il y a quelque chose dans la littérature qui me semblait être complètement appartenir à une autre génération.
Qui ne veut pas dire que c'est faux d'ailleurs. C'est pas parce que ça s'est reproduit à plusieurs reprises dans l'histoire littéraire que c'est faux.
Non, non.
Il y a cette on retrouve cette notion. Dans le roman qui suit, qui est Fleur de Crachat, à la fois, alors là, c'est la mise en scène de la psychanalyse. Mm-hmm. Donc, on a l'impression de revivre des choses que vous avez vécues. Mais là, c'est la psychanalyse récupérée, enfin, mise en scène par la littérature. Et puis, en même temps, c'est une chirurgienne qui parle. Donc, il y a quelque chose d'un disséquage précis et chirurgical. Et quand elle a fini cette sorte de décortiquage, alors elle est dans une sorte de renaissance avec un mariage. Donc, toujours, c'est une idée presque eschatologique du lendemain qui chante.
Cette fille est prise avec son passé parce qu'elle est prise avec la guerre. Dans Fleur de Crachat, elle est obsédée par la guerre. Sa mère lui a légué la guerre et elle est la Deuxième Guerre mondiale parce que sa mère ne lui a raconté que la guerre. Donc, elle a un frère, un grand frère, qui, lui, est encore plus obsédé par la guerre qu'elle, et qui lui revit tout le temps la Deuxième Guerre mondiale. Et à un moment donné, ce frère va se suicider d'une certaine façon en faisant un grand coup d'éclat, et elle décide de vivre. Mais on ne sait pas si elle décide de vivre, c'est-à-dire qu'elle se marie à la fin, mais ça peut être aussi son enterrement. Elle a du mal à savoir si c'est sa mort ou si c'est son commencement. C'est vrai qu'il y a cette préoccupation chez moi, de même avec ce que je viens de vous dire sur Ducharme et Aquin, c'est... On a l'impression, quand il y a une fin, comment recommencer, hein? Comment, quand quelque chose se termine, qu'est-ce qui reste à ceux qui viennent après? Ça, c'est une question qui me préoccupe beaucoup. C'est la question d'une mort et d'une renaissance, d'un héritage pour ceux qui viennent.
C'est ça, la transmission.
Absolument.
On m'a trouvé aussi, parce qu'elle est, elle, textuellement, cette héroïne de Fleur de Crachat, le théâtre des opérations, comme
oui.
on disait.
Oui, oui.
Elle est à la fois les plages de Normandie. Alors, pour poursuivre dans cette... Je parlerai des essais juste après, parce que c'est un autre genre, et j'aimerais savoir à quel moment vous réfléchissez longtemps dans les essais. Mais là, dans le cycle romanesque, on arrive à une période qui est très importante. Vous avez décidé donc de commencer un cycle que vous dites vous-même américain, avec une première pièce de théâtre, Omaha Beach, où alors là, on est vraiment dans le théâtre des opérations. On est à la fois dans le cimetière où sont ceux qui sont tombés, et puis, ils ont des parties entre eux absolument extraordinaires, mais il y a surtout une mère et sa fille qui viennent les visiter. Et là aussi, on est dans la transmission intergénérationnelle. Mm-hmm. Qu'est-ce qui reste? Pourquoi en avoir d'abord fait une pièce de théâtre et non un roman? Vous avez changé de genre littéraire. Pourquoi?
Oh, c'était un accident. Après, c'est que il y a une de mes amies qui est actrice et qui m'a dit tu devrais écrire du théâtre parce que finalement tu ne fais que du théâtre. Hein? Et mais quand j'ai eu écrit le théâtre, elle m'a dit finalement c'est un peu du roman ce que tu fais. Hein? Donc je suis toujours entre les deux peut-être. Mais elle avait raison. Je pensais que, et puis elle m'a permis d'aller vers des personnages. C'est-à-dire que cette amie m'a dit finalement grâce au théâtre tu vas peut-être développer des personnages, et c'est vrai. Et je suis très obsédée par la voix, c'est-à-dire que pour moi, des personnages, je vois très peu mes personnages, c'est pas visuel chez moi, c'est vraiment des voix.
Vous êtes l'écrivain auditif.
Oui, donc ça marche bien le théâtre, ouais. Parce que ça peut être des voix aussi. Pourquoi j'ai écrit? Bon, donc c'était accidentel, mais c'était quelqu'un qui m'avait lu et qui me dit peut-être le prochain pas c'est le théâtre pour toi. Donc j'ai trouvé que c'était un bon pas, je vais pas beaucoup au théâtre parce que j'aime pas tellement le théâtre, mais j'aime beaucoup lire le théâtre. Si j'ai un rapport de lectrice au théâtre, aller à un spectacle ou aller dans une salle, il y a quelque part où ça me convient pas,
c'est paradoxal parce que généralement on n'aime pas lire le théâtre justement.
J'adore lire le théâtre, c'est ça, mais
on reproche souvent.
Mais j'ai du mal avec le théâtre parce que c'est un espace où on doit rester dans un lieu enfermé. C'est
comme par exemple pendant une entrevue littéraire.
Absolument,
à la
c'est affreux. Mais
ça commence aussi donc ce cycle américain. C'est important, vous m'avez dit. Effectivement, au cœur de votre œuvre, il y a quelque chose se finit généralement dans des grandes morts collectives. Toujours. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. C'est cet attachement à l'histoire que vous avez évoqué. Et puis, il faut quand même transmettre quelque chose par-delà ça. C'est le fleuve. Enfin, c'est la transmission. Et c'est là que naît ce roman tout à fait extraordinaire. Je pense vraiment l'un des plus forts que j'ai lu cet automne. Le ciel de Bay City, qui effectivement est un roman à la fois plus complexe sur le plan de la structure narrative, parce qu'il est fragmentaire, parce que bon, il y a une structure chronologique aussi qui n'est pas linéaire et qui n'est pas évidente. Il est plus romanesque aussi que les autres. Il se passe énormément de choses et ça refait une partie de l'histoire, alors vraiment importante, puisque non seulement l'héroïne, on la trouve à la fois à la fin des années 70 et aujourd'hui où elle est devenue pilote d'avion, où elle a une fille, où on s'en va vers un ciel qui est de plus en plus libéré. Mm-hmm. C'est cette allégorie du ciel chargé qui porte à la fois la fumée des corps qu'on a brûlés à Auschwitz, les cris des soldats morts pendant cette période-là, les fumées d'usines de Flint des bords du Michigan, et puis c'est ce l'azur possible dans lequel se reflète le Gange. Mm-hmm. Alors, j'ai beaucoup aimé cette allégorie du ciel, finalement. Qu'est-ce que nous réserve le ciel que nous ne nous réservons pas nous-mêmes, pauvres humains, j'allais dire. Pourquoi cette construction-là? C'est un livre aussi qui est marquant, mais qui est très apaisant quand on a fini de le lire.
Mm-hmm. Pourquoi cette construction? Vous voulez me dire pourquoi
Oui, à la fois saccadée, et puis qui reprenait comme ça 40 ans d'histoire.
L'idée m'est venue de... Je voulais parler d'une maison que j'ai connue à Bay City, qui était la maison de ma tante et de mon oncle, qui ont été des gens très importants pour moi.
C'est vrai que quand on vous a écouté parler de votre enfance, excusez-moi, et qu'on lit le roman, on se dit « Ah, tiens, beaucoup de choses communes, là, comme un retour sur l'enfance. »
Alors, je voulais parler de mon enfance américaine. Je voulais parler de ça parce que même des fois, il y a des choses en commun entre la maison à Bay City et mon duplex à Ville d'Anjou où j'ai vécu enfant. Il y a beaucoup de choses en commun. Hein. Mais je voulais parler des enfants d'immigrants qui arrivent dans des endroits tout neufs. La place Versailles, ça faisait pas longtemps. Les galeries d'Anjou, on les a construites devant mes yeux. Vous voyez, je voulais parler de lieux comme ça. De la nouveauté, oui. C'est ça, de la nouveauté. Et puis, des choses qui ont mon âge. Hein, j'ai 7 ans, mais le Kmart avait mon âge. Vous voyez ce que je veux dire? Un monde qui naît en même temps que moi, presque, mais qui est pas vieux. Et avec cette sensation de venir d'un monde très ancien, parce que ses parents viennent de la Deuxième Guerre mondiale, viennent de civilisations lointaines, et avec un passé hyper chargé aussi. Je voulais parler de cette rencontre du lourd et du léger.
Oui.
Je voulais parler, qui a été ma vie, en fait, qui a été, le léger qui est porteur d'espoir, mais c'est un léger aussi qui, des fois, est... Je veux dire, c'est pas si génial le quai Martin. Je veux dire, c'est un léger qui est artificiel. Bon, mais c'est ma vie. Et puis, je voulais essayer de dire, est-ce qu'on peut se débarrasser dans ce monde moderne, dans ce nouveau monde, du passé lourd qui a eu lieu avant? C'était ça ma question. Est-ce que des enfants d'immigrants peuvent imaginer qu'ils ne porteront pas toute leur vie la vie de leurs parents? Hein, c'était ça. Et alors c'est pour ça aussi que j'ai fait intervenir une troisième génération, c'est-à-dire que ma narratrice, qui est née en 61, le 4 juillet 61, a une fille à un moment donné, et elle a l'impression que peut-être sa fille va être capable, elle, de quitter le passé, même si ma narratrice, Amy, ne peut pas...
Mais sa fille est arrivée au bout du bout, parce que le Nouveau-Mexique, c'est le bout du Go West.
Oui.
Donc c'est ça le mouvement de l'humanité.
Oui, oui.
Entre l'humanité la plus ancienne, celle qui vient de l'Ancien Testament, celle qui vient de la chute du Temple de Salomon, et on est tous errants depuis ce temps-là.
Ah, oui.
Alors on peut pas aboutir plus loin que sur la côte pacifique. Alors?
Alors elle rêve de l'Inde. Alors elle rêve de l'Inde. Elle
qui
rêve encore.
C'est un retour
à une civilisation encore
sérieux.
Plus.
Oui.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire, alors, elle rêve de l'Inde, elle rêve d'aller mourir en Inde, elle rêve de quitter la, elle rêve de quitter la dualité oui. Amérique-Europe, hein. Oui. Elle rêve de quitter ça et d'aller dans un autre monde encore, qui ce serait celui de...
Et sa fille s'appelle Heaven, donc oui. elle a carrément quitté.
Oui, oui.
Elle est trois pieds au-dessus.
Oui, oui, sa fille est déjà du monde du
Quel
ciel.
Quel est le troisième livre de ce cycle américain, alors, justement? Est-ce qu'il y en a un qui se construit là?
Oui, mais il se construit lentement, mais en ce moment, j'essaye de travailler sur quelque chose qui se passera entre Seattle et le sud des États-Unis. Donc,
Là, c'est pas le Est-Ouest.
Non,
mais le
non, c'est, bah, c'est, sud, la, c'est l'Est-Ouest, oui. Mais des États-Unis. C'est sur le, ça sera sur les États-Unis.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est, on l'a pas fait exprès, mais c'est très fortement symbolique d'avoir cette discussion le 11 novembre, jour de l'armistice, avec tout ce que ça signifie et ce que ça rappelle aussi de guerre. Ma dernière question avant de laisser la parole à notre public va être justement à quel moment vous choisissez d'écrire des essais comme vous l'avez fait, par exemple, parce qu'il y a une partie de vos recherches qui se base sur les images, les photographies, la télévision. Alors, comment condamner à mort, justement, cet essai qui a eu plusieurs prix et qui est une réflexion sur la manière dont on montre la mort et la condamnation à mort. Alors là, à la télévision. Mm-hmm. Donc, ça rejoint un certain nombre de vos thèmes, mm-hmm. mais dans une forme littéraire qui est l'essai. À quel moment est-ce que ça devient un essai et non pas un roman, justement?
Ben, c'était très circonstanciel, c'est-à-dire que pour le travail, pour l'université, je dois écrire des textes, des essais, mais je me laisse beaucoup de liberté, c'est-à-dire que même à l'université, je me permets d'écrire des choses qui sont des essais, mais auxquels j'apporte une grande attention au niveau de l'écriture, oui. Et puis aussi, je me permets de ne pas être toujours très savante, je me permets d'avoir aussi un rapport... un peu cavalier avec la science passée. Donc, d'un seul coup, je me suis aperçue que ce que j'avais fait plusieurs présentations, et je me suis aperçue qu'il y avait un thème commun, qu'il y avait quelque chose qui pouvait être rassemblé, et bon, que ça faisait sûrement écho à mon travail de fiction, mais que c'était à part. Et donc, on a, avec l'éditrice, on a décidé de faire un texte comme ça, mais je ne pense pas que je vais me mettre à l'écriture de l'essai de la même façon qu'à l'écriture de la fiction. C'est-à-dire que l'écriture de l'essai, je vais faire des petits essais de temps en temps, mais je vais peut-être les rassembler, mais je ne vais pas me mettre à... Je n'ai pas une idée de l'essai. C'est-à-dire que, alors que j'ai un projet esthétique ou j'ai un projet d'écriture, de fiction, l'essai, c'est à un moment donné, je rassemble des choses éparses. En ce moment, j'ai un blog où j'écris, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, j'écris des choses et puis un jour, peut-être qu'il y a des choses qui vont ensemble, peut-être des choses qui ne vont pas ensemble. Vous voyez, j'écris d'une façon un peu en tâtonnant. Alors que je pense que l'écriture de fiction me demande plus d'engagement au niveau du temps puis au niveau d'une réflexion sur qu'est-ce que je veux vraiment faire.
Oui, mais justement, alors surtout n'hésitez pas à vous diriger vers les micros qui sont de chaque côté. C'est le moment de le faire.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je me demanderais, maintenant que vous êtes une écrivaine connue, reconnue de plus en plus, est-ce que vous avez l'impression, justement, d'avoir trouvé des racines? Puis je pourrais poser la même question par rapport aussi au fait d'avoir une enfant.
Est-ce que j'ai trouvé des racines? Non, c'est-à-dire que je trouve que les racines, c'est quelque chose qu'on trouve avec le temps. Je pense à une phrase d'un philosophe, Derrida, il dit « c'est pas le lieu de naissance qui compte, c'est le lieu de sa mort hein? ». Bon, alors des fois, c'est sûr que la mort est accidentelle, mais le lieu où on va choisir de mourir, hein? Ça sera notre lieu, dans le fond. Et... peut-être que j'ai une idée hein, de où je voudrais mourir. Peut-être que j'ai une idée, j'aimerais bien mourir peut-être parmi les miens ici, etc. Mais j'ai l'impression que les racines, c'est quelque chose que sur lequel on doit tous travailler. C'est quelque chose qui n'est pas dans le passé, c'est quelque chose à venir pour moi. Et pour moi, l'appartenance, c'est quelque chose qui se travaille et qui n'est jamais donné une fois pour toutes.
Mmh. Oui, finalement, c'est ce qu'on devient, non pas d'où on vient.
C'est exactement, c'est ça, parce que les racines, c'est facile.
Oui, et puis ça part toujours du sens. En revanche, ma question à moi était aussi le cheminement littéraire. Vous avez choisi, malgré tout, on dirait, d'être québécoise, de vous y inscrire. Et puis, le cheminement littéraire, lui, est un choix et un véritable cheminement, pierre par pierre. Est-ce que vous avez maintenant une image de ce cheminement ou un désir, une projection qui serait comme un enracinement? Parce que, finalement, c'est celui-là, le sillon.
Non. C'est-à-dire que c'est comme ça que je suis. Pour moi, tout est à faire. Mm. C'est-à-dire que je n'ai jamais l'impression que j'ai fait quelque chose. Mm. Et c'est pas, je dis pas ça. J'ai l'impression que les choses sont encore à faire, que même l'écriture, je peux concevoir qu'un jour je vais arrêter d'écrire. C'est-à-dire, et ça serait pas triste si j'arrêtais. Pour moi, on est dans un chemin et je sais pas quel est ce chemin, mais j'ai l'impression que ce chemin ne manque pas tant que ça. Ce qui manque peut-être, c'est les gens. Je crois que les gens autour de moi, vous avez parlé de ma fille, je pense que ça, c'est les gens que j'aime, les amis. Ça, c'est quelque chose qui manque plus que l'écriture. L'écriture, je vous disais, ça reste pour moi quand même un luxe nécessaire, mais c'est quelque chose qui fait partie d'un luxe. Je trouve que j'ai de la chance de pouvoir écrire et que c'est vraiment parce que je suis privilégiée que je peux le faire.
Néanmoins, les livres souvent naissent, je dirais, le suivant naît de la faille de l'autre, parce que quand on écrit un livre, on a toujours l'impression que ça y est, on a dit tout ce qu'on avait à dire, et bien entendu... C'est faux. Ça ne fait qu'ouvrir quelque chose d'autre. Est-ce que c'est comme ça que les livres se succèdent? Comment les livres viennent-ils les uns après les autres, justement?
Alors ça, c'est toujours un mystère, parce que, dans le fond, on a tout... c'est vrai que quand on finit un livre, on se dit « je ne pourrais jamais en faire un autre, c'est toujours le dernier ». Mais comment ils viennent? Est-ce que c'est la faille? Oui, c'est la faille, mais j'ai l'impression quand même que moi, j'attends... Je ne suis jamais très pressée de recommencer un nouveau roman. C'est-à-dire, j'attends que quelque chose arrive, qu'une idée me vienne, et puis elle peut ne pas venir. Et quand je suis dans l'idée, après ça, j'écris assez vite, même si je corrige beaucoup, mais j'écris vite. Mais je pense que j'attends que quelque chose
soit
arrive.
Obligatoire, s'impose.
S'impose, exactement.
Oui, oui.
J'ai l'impression que l'écriture, c'est quand même il faut que ça soit une nécessité.
Oui.
Voilà.
Oui. D'autres questions?
Bonjour. Bonjour. D'abord, je dois dire que je n'ai lu de vous que Deuil cannibale et mélancolique. Et dans ce roman, comme j'ai cru le comprendre dans les autres romans, votre narratrice vous ressemble en beaucoup de points. Et même dans Deuil cannibale et mélancolique, elle porte votre prénom, et si ma mémoire est bonne, votre nom. Et ma question serait, c'est quoi l'importance pour vous de l'autofiction, non pas tant dans l'écriture, mais dans le sens de l'œuvre pour le lecteur à qui vous vous adressez?
Le dernier texte est, je pourrais dire, autobiographique d'une certaine façon, mais pas autofictionnel, parce que ce n'est pas du tout mon nom dans le texte. Je ne sais pas comment répondre à votre question sur l'autofiction. Je pourrais répondre sur l'autobiographique, par contre, si ça vous va. C'est-à-dire que... il y a toujours dans ce que j'écris certains éléments autobiographiques que je déforme énormément. Pourquoi, par rapport au lecteur, je pourrais dire c'est j'ai envie d'une certaine façon qu'il y ait quelque chose de véridique. Hein, j'ai envie qu'il y ait quelque chose d'authentique dans ce que j'écris. Alors même s'il y a plein de choses qui sont pas vraies dans ce que j'écris, mais j'ai l'impression que le lieu d'où j'écris est quand même un lieu de l'expérience, malgré tout. Est-ce que c'est ça que je cherche sur le lecteur? Oui, je pense que je voudrais que le lecteur me croie, même si je mens. Donc, c'est vrai qu'il y aurait cette part-là. L'autofiction, peut-être, serait aussi dans ce sens-là. C'est que l'autofiction, c'est faire croire que c'est vrai alors que ça ne l'est pas. Alors, en ce sens-là, je serais autofictionnelle, même si je suis plutôt autobiographique, je crois, qu'autofictionnelle. Mais j'aurais du mal à écrire quelque chose qui m'est complètement étranger. En fait, je n'ai jamais écrit, c'est un grand tort, je n'ai jamais écrit qu'au jeu. Même quand le jeu n'a pas mon nom, je n'ai jamais écrit qu'au jeu, sauf dans la pièce de théâtre. Et mais il dit jeu parce que c'est des voix, mais là, c'est plusieurs. Je n'ai jamais écrit qu'au jeu, donc peut-être que si j'arrive un jour à écrire au il, mon écriture aura vraiment changé. Ou elle, peut-être. Oui. Mais bon, j'en suis pas là. Je suis encore dans ce mythe qu'il faut quand même être un peu authentique pour moi. C'est de là que vient l'écriture. Puis j'aime beaucoup d'autres types d'écriture, mais pour moi, ça serait de cet ordre-là.
D'autres questions? C'est le moment où j'appelle.
Jamais.
Enfin, jamais. Pardon. Qu'est-ce que j'ai dit?
Simplement une petite question. Vous avez parlé de rupture de transmission avec la mort d'Aquin et face à Duchamp. Pourriez-vous développer cette idée-là, s'il vous plaît?
Mais j'avais l'impression que... Je ne sais pas si je pourrais bien le développer. J'avais l'impression que la littérature québécoise, même si Duchamp n'est pas là, Duchamp est très absent. Hein, il refuse d'être là pour nous montrer la voie. Il fait bien. Hein, c'est pas, il a raison. C'est pas. Mais Duchamp ne fait pas d'entrevue. Duchamp ne veut pas agir comme auteur, alors qu'on aurait besoin de figures, il me semble, ou qu'on a eu besoin de certaines figures dans la littérature québécoise. Il s'est retiré. Aquin, lui, s'est suicidé. J'ai l'impression qu'on a fonctionné beaucoup avec des monuments de la littérature québécoise qui ont été absents. Hein, ça, c'est cette sensation que j'ai eue dans ma génération. Et là, maintenant, les auteurs sont plus du tout comme ça. Les auteurs sont très présents. Bon, mais j'ai eu l'impression, peut-être à tort, mais que il y avait eu. Je vais le dire comme une enfant, parce que je veux dire comme l'enfant de ces écrivains-là, qui avaient eu un manque de générosité de la part de nos pères, qu'ils n'avaient pas voulu porter leurs enfants jusqu'au bout, qui s'étaient dit, nous, on est les pères, mais débrouillez-vous, après nous, la fin du monde. Hein. J'ai eu ce sentiment-là, à tort ou à raison, mais je me suis dit, à un moment donné, les gens de ma génération... Écrire après ces géants-là, alors qu'ils ne veulent pas être là, puis qu'ils sont partis avec la littérature, c'est difficile. Voilà.
Ce sont des pères absents dans une littérature très marquée par les femmes.
Oui, c'est vrai.
En plus. Donc, ça renvoie encore à une spécificité. Madame.
Oui, bonjour mesdames. J'ai beaucoup apprécié les questions-réponses et j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, j'ai été frappée quand vous avez dit pendant des années, pour vous, l'écriture exprimait la douleur, mais non pas dans le sens des écrivains qui écrivent. C'était vraiment à partir de ce que vous aviez vécu. En passant, avez-vous fait la paix avec la France?
Et, non, pas du tout.
Et c'est parce que vous parlez aussi, vous n'avez pas de racines, mais vous avez quand même quelque part des racines de par vos parents européennes. Américaine de par votre naissance à San Francisco et quelque part depuis les années que vous passez ici au Québec. Est-ce que pour vous, moi, ça m'est venu à l'idée, je ne sais pas comment l'exprimer, mais je me suis dit, suite à ce qu'elle a vécu, si pour vous la littérature devenait un exutoire, est-ce que ça pourrait tout changer votre vie? Vous n'y auriez plus d'intérêt parce que j'ai l'impression que vous vous êtes exprimé là-dedans. Mais que vous êtes authentique, que vous êtes bien maintenant, que vous vous assumez. Et ce que vous écrivez, quelque part, ça fait partie de vous.
Vous me demandez, dans le fond, si la littérature...
Si elle devenait pour vous un exutoire, parce que quelque temps, ça a été comme une espèce de thérapie.
Non.
Ça n'a pas été facile pour vous. Vous l'avez dit vous-même, mm-hmm. Je prends votre propos dans la douleur. Est-ce que pour vous, voir la littérature comme un exutoire, comme peut-être plusieurs personnes à qui ça peut arriver, vos personnages changeraient, votre dynamique serait complètement différente?
Peut-être, oui, mais je vois la littérature, je vous dis, je ne peux pas m'empêcher de voir la littérature comme une douleur. C'est-à-dire que, et j'aime bien les écrivains de la douleur, c'est-à-dire je cherche les écrivains qui sont capables de transmettre la douleur, que ça soit la sienne ou celle des autres. Donc, Si la littérature pour moi pourra pas être un exutoire, je pense qu'elle doit avoir
exprimé la douleur.
elle doit d'une certaine façon l'exprimer comme ça. Et je comprends très bien qu'on écrive pour d'autres raisons et je peux aimer certains écrivains comme ça, mais je préfère les écrivains qui ont rapport avec cette douleur-là parce que je trouve que le reste, on en parle dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour beaucoup de choses dans le monde, alors que le malaise, la douleur, la mort, je trouve que la honte aussi, des choses, la littérature peut parler de ça, alors qu'il y a peu de lieux qui peuvent en parler. Donc là, pour moi, c'est un refuge encore pour... Deleuze dit que la littérature parle pour les idiots, les fous, les malades. Moi, je crois à ça, c'est-à-dire qu'il y a presque quelque chose de messianique là-dedans, c'est prendre la parole... pour
le difficile à exprimer.
Exactement, tout à fait.
Merci beaucoup.
Et les enfants.
Et les enfants, ben oui, les enfants, les idiots.
Seul le fou
oui,
et l'enfant
oui,
portent la vérité enfants. Sur leur visage.
Oui.
Et Deleuze, encore un qui est mal fini. Donc on se demande toujours, finalement, bien, une dernière question, monsieur.
J'ai remarqué par rapport aux photos qu'on voyait sur les publications avant, c'était des photos, vous étiez toujours triste. Et depuis quelque temps, non, mais la photo, on voit beaucoup de gaieté. Est-ce que ça annonce dans votre littérature un changement majeur?
Écoutez, espérons-le. Mais c'est pas la question, c'est que... D'habitude, c'était des photos faites maison. Donc, vous savez, à la maison, je peux faire la gueule au photographe parce que je le connais. Mais avant, maintenant, j'ai eu la chance d'avoir une bonne photographe qui m'a pris sans que je pose. Donc, c'est quand je parlais, elle ne m'a pas demandé de quoi que ce soit. Donc, c'est ce qui permet la gaieté parce que si vous me demandez de poser, c'est sûr que je vais être de très mauvaise humeur.
Bien, alors justement, nous avons un photographe professionnel qui n'a absolument pas demandé l'autorisation. Et donc, on aura beaucoup de belles photos de gaieté.
Ah, tant mieux!
Mais d'authenticité. Catherine Mavrikakis, merci infiniment.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'être venue.
Et puis, merci à tout le monde. Donc, en ce 11 novembre, très réparateur pour tout le monde. Merci beaucoup et à la prochaine.
Merci.
Le 9 décembre avec Stéphane Bourguignon. Le 9 décembre. Merci.
Merci.